Marcel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 26 mars, chez Ruben Dorcil à Washington, accompagné de Morgane Guiriec. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Chérubin, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, République centrafricaine, la présidente Catherine Samba-Panza se défend contre les accusations d'inaction et de passivité alors que les violences perdurent à Bangui.
L'administration centrafricaine se déploie doucement et partout sur l'ensemble du territoire national.
Au Burundi, le ministre de l'Intérieur annonce la candidature du président Nkurunziza à un troisième mandat. Crainte de propagation de l'épidémie d'Ebola dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Ce soir encore, un coup d'œil sur la Guinée.
La peur, elle est palpable. On hésite aujourd'hui de se saluer.
À suivre, les témoignages d'un visiteur qui revient d'une des zones affectées dans l'intérieur du pays. À Bruxelles, le président Barack Obama appelle l'Europe à diversifier ses sources d'approvisionnement en énergie suite à l'intervention de la Russie en Crimée. Et ne manquez pas les sports et la musique en fin d'émission. Pour l'instant, le journal.
En République centrafricaine, alors qu'un calme relatif règne aujourd'hui à Bangui, la présidente de la transition est sortie de son mutisme. Catherine Samba-Panza a assuré que le désarmement du 3e arrondissement, tant souhaité par une partie des centrafricains, sera bientôt chose faite, tout comme celui des autres arrondissements. Le point avec Timothée Dodangmaï.
Catherine Samba-Panza a déclaré aujourd'hui qu'il n'est pas tolérable que les forces internationales venues en appui au pays deviennent des cibles de certains groupes armés. Elle a promis un désarmement très prochain du 3e arrondissement.
Je voudrais ici porter à la connaissance de tous qu'il n'y aura pas de zone de non-droit tant à Bangui qu'à l'intérieur du pays. La MISCA et la Sangaris procéderont au désarmement de tous les groupes sur l'ensemble du territoire. Faites-moi confiance. Le 3e arrondissement sera désarmé, tout comme les autres quartiers de Bangui abritant des milices ou des groupes armés.
En réponse à ses détracteurs qui l'accusent d'inaction face au projet d'une tentative de partition du pays, la présidente se veut rassurante et indique que ce projet est une vue de l'esprit de ses auteurs et de ceux qui y croient.
L'administration centrafricaine se déploie doucement et partout sur l'ensemble du territoire national. Mon ambition est de conduire la transition de manière consensuelle et inclusive jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel à l'issue des élections libres et transparentes.
Au sujet du réarmement des forces armées centrafricaines, la chef de l'État a fait savoir qu'elle a été confrontée à un refus poli de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Présidentielle au Burundi, la candidature de Pierre Nkurunziza n'est plus un secret. Le ministre de l'Intérieur a confirmé que le président, élu en 2005, briguera un troisième mandat en 2015. Une déclaration qui a beaucoup gêné le parti présidentiel, qui n'a pas encore désigné de candidat à la magistrature suprême. C'est dans ce contexte que le Bureau des Nations Unies au Burundi appelle les autorités politiques à plus de responsabilité. De Bujumbura, les précisions d'Éric Manirakiza.
Devant un parterre de représentants des confessions religieuses, le ministre de l'Intérieur Edouard Nduimana a été on ne peut plus clair. Le candidat aux prochaines présidentielles est bel et bien l'actuel numéro 1 burundais, dont le deuxième et dernier mandat prend fin en août 2015. Le ministre de l'Intérieur, qui a en charge les partis politiques dans ses attributions, a plutôt invité l'opposition burundaise à mieux se préparer pour affronter le président Pierre Nkurunziza. Pourtant, l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation signé en août 2000, repris dans la constitution en vigueur aujourd'hui, limite le mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une seule fois. En principe, le chef de l'État est élu au suffrage universel direct. Mais l'article 302 de la Constitution prévoit une exception pour le premier mandat post-transition de 2005. Cet article détermine que le président de la République est élu par les deux tiers des membres des deux chambres du Parlement réunis. Le régime de Bujumbura a tenté de se débarrasser de cet article dans la révision de la Constitution qui a échoué vendredi dernier pour permettre au président Pierre Nkurunziza de se représenter une troisième fois en toute légalité. Mais non, le ministre de l'Intérieur dit que la Cour constitutionnelle, nommée par son chef, est seule habilitée à trancher. Il précise que tout le monde devra respecter le verdict, mais cette déclaration a mis mal à l'aise le parti présidentiel. Onésime Douimana, porte-parole, a affirmé que le ministre de l'Intérieur a agi en son nom propre. L'opposition et la société civile estiment que le ministre de l'Intérieur a fait une fuite en avant, mais révélatrice d'une élection truquée d'avance. Tout n'est pas encore joué, l'exemple sénégalais devrait inspirer les Burundais pour mettre fin à cette violation constitutionnelle, selon l'avis d'un diplomate onusien à Bujumbura. Eric Manirakiza, Bujumbura, La Voix de l'Amérique.
La Guinée a engagé une course contre la montre pour tenter d'enrayer l'expansion d'une épidémie de fièvre Ebola. La maladie a déjà fait près de 60 morts. Le virus Ebola est très contagieux. Il n'y a aucun remède et plus de 90 cas sont recensés en Guinée forestière, qui a une frontière commune avec la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire et le Mali. Notre confrère Souleymane Ba est parmi les rares journalistes à avoir visité Gekedou, dont l'un des quartiers est très touché par l'épidémie.
Au moment où je me rendais sur les lieux, on parlait à l'époque d'une maladie mystérieuse. Il fallait être bien protégé du crâne aux orteils. Quelques matériels que le ministère de la Santé nous a fournis, qu'on a essayé de rencontrer quelques malades, qu'on n'a pas pu interviewer parce que le risque de contamination était assez grand. On a vu des agents de Médecins sans frontières qui s'appliquaient à désinfecter le centre hospitalier. La contamination au niveau de l'hôpital est vraiment grande. Un grand médecin de Macenta a été tué par cette maladie Ebola. Malade soit aujourd'hui dans un centre d'isolement au niveau de la direction préfectorale de la santé au niveau de Baladou. Le quartier le plus touché, j'ai rencontré des voisins d'une famille qui a été entièrement décimée. Gekedou, c'est un grand centre d'affaires. Au centre-ville même, vous ne sentez pas la peur. Mais quand vous allez vers Baladou, le quartier qui a été le plus touché, la peur, elle est palpable. Où on évite aujourd'hui de se saluer.
Justice internationale, Charles Blé Goudé comparaîtra demain à La Haye, l'allié de Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, et poursuivi pour son rôle présumé dans les attaques contre des civils lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Il s'agira de sa première comparution devant la Cour pénale internationale qui a retenu contre lui 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité.
Nouvelles avancées des forces pro-gouvernementales en Somalie. L'armée et les soldats de l'Union africaine ont repris le contrôle d'Elbourg, dans le centre du pays. C'est ce qu'annonce l'AMISOM, la mission africaine en Somalie. Cette ville, située à 350 km de Mogadiscio, était jusqu'alors aux mains des islamistes d'Al-Shabaab. L'AMISOM souligne que les forces conjointes ont libéré 10 grandes villes depuis le début de l'offensive contre les insurgés le mois dernier. Notons que plus de 20 000 soldats et policiers de l'Union africaine sont en Somalie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Barack Obama affirme que la communauté internationale est unie dans sa détermination à isoler la Russie en raison de son annexion de la Crimée et que la question met en évidence la nécessité pour l'Europe de trouver d'autres sources pour ses approvisionnements en énergie. Lionel Gaïma.
This entire event, I think, has pointed to the need for Europe to look at how it can further diversify its energy sources. And
Barack Obama a averti que le secteur énergétique de la Russie pourrait être la prochaine cible des États-Unis et de l'Union européenne pour des sanctions économiques. Il s'exprimait aujourd'hui à Bruxelles après une rencontre avec les dirigeants de l'Union européenne sur l'avenir des besoins énergétiques de l'Europe ainsi que la crise en Ukraine. Monsieur Obama, qui s'est également entretenu avec des représentants de l'OTAN, a déclaré que l'Alliance Atlantique a besoin d'une présence régulière dans les pays qui se sentent vulnérables vis-à-vis de la Russie. La situation en Ukraine, dit-il, est un rappel que la liberté n'est pas gratuite, ajoutant que la défense collective implique la contribution de tous pour le maintien d'une force de dissuasion. Les entretiens de M. Obama en Europe devraient renforcer davantage l'opposition occidentale à l'annexion de la Crimée par la Russie. Dans ses entretiens à l'OTAN, le président Obama devrait rassurer les alliés du soutien des États-Unis et exhorter les pays membres à fournir une assistance au gouvernement ukrainien. Prochaine étape de la tournée du président américain, l'Italie, où il rencontrera le pape François. Entre-temps, la Russie ne montre aucun signe d'assouplissement en Crimée et les troupes ukrainiennes ont été contraintes à se retirer de leurs installations dans cette région. Le président Obama a dit que Washington demeure préoccupé par l'éventualité d'autres actions hostiles de Moscou en Ukraine. Plus tard dans la journée, le chef de l'exécutif américain a prononcé un discours au Palais de Beaux-Arts de Bruxelles sur les relations transatlantiques.
L'économie russe, déjà affaiblie, pourrait se contracter davantage cette année si le bras de fer s'intensifie entre Moscou et l'Occident suite à l'annexion de la Crimée. C'est la conclusion d'un rapport de la Banque mondiale paru aujourd'hui. Selon les prévisions de la Banque, l'économie russe risque d'enregistrer une contraction de 1,8% en 2014 et les investisseurs pourraient retirer le chiffre record de 150 milliards de dollars de la Russie. En fait, souligne le rapport, quelle que soit l'issue de la dispute sur la Crimée, la gestion de l'économie russe risque de se retrouver en mode de crise.
Du nouveau sur l'avion disparu de Malaysia Airlines, plus de 120 débris pourraient avoir été repérés grâce à des images satellites françaises. C'est ce qu'indiquent les autorités malaisiennes. Ces débris ont été localisés dans l'océan Indien à plus de 2500 km des côtes australiennes. Mesurant jusqu'à 23 mètres de long, ils pourraient provenir d'un avion. Des images satellites chinoises et australiennes avaient permis d'émettre des hypothèses similaires. De même, les autorités maritimes australiennes disent avoir repéré trois objets dans la zone. Mais pour l'heure, il n'est pas possible d'affirmer que ces débris proviennent du Boeing 777, disparu le 8 mars avec 239 personnes à bord.
Paix au Proche-Orient, le secrétaire d'État américain John Kerry est en Jordanie dans l'espoir de relancer les pourparlers israélo-palestiniens. Il a rencontré le roi Abdallah de Jordanie. Des entretiens avec Mahmoud Abbas, président palestinien, étaient également prévus. Visite qui intervient alors que les 22 pays de la Ligue arabe ont annoncé qu'ils ne reconnaîtront jamais Israël comme un État juif.
La Corée du Nord récidive. De nouveaux essais de missiles de moyenne portée à partir de sa côte est. Pour Séoul et Washington, c'est une provocation. Les missiles lancés tôt ce matin sont tombés en mer entre la Corée du Sud et le Japon. En quelques semaines, Pyongyang a effectué plusieurs essais de missiles de courte portée.
Voilà pour le journal, il est 18h42 en temps universel, 14h42 à Washington, chez Robin Dorsil en compagnie de Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. La crise perdure en République centrafricaine. Les violences quasi quotidiennes à Bangui affectent sérieusement l'activité économique. Les communautés souffrent de ce climat de tension. La Voix de l'Amérique a sur place son envoyé spécial Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Alors vous êtes à Bangui, premières impressions?
Oui, la ville est quand même un peu sous tension parce qu'il y a des parties de Bangui qu'on peut... où on peut aller facilement sans problème, mais il y a certains endroits aussi où on dirait qu'il y a des barrages, il y a des voies qui sont barrées, il y a des endroits où il y a des tirs la nuit ou souvent dans la journée, donc où il ne faut pas s'aventurer, quoi.
Une idée de ce que vous allez nous proposer dans votre premier reportage?
Oui, alors ce matin, nous avons été à ce qu'on appelle ici le complexe pédiatrique de Bangui. Il est situé dans le premier arrondissement. En temps normal, sur Urbain, ce complexe ne reçoit que des enfants, mais durant le temps fort de la crise ici, comme par exemple en mars 2013, lors de l'offensive des Sérékas sur Bangui, ou encore en décembre dernier, lors des attaques menées par les anti-balakas, cette pédiatrie a reçu beaucoup d'enfants, mais également des adultes victimes des actes de violence. Et ce matin, nous avons rencontré des parents de certains de ces enfants qui sont toujours hospitalisés. On les écoute.
Nous étions au camp, c'est son père qui le portait quand les Sérékas sont arrivés. Ils ont commencé à tirer sur tout ce qui bougeait. Son père s'est enfui avec elle. Les Sérékas l'ont suivi, l'ont tiré dessus jusqu'à ce qu'il le tue. La petite a reçu une balle au niveau de la bouche. Ce sont les pleurs de l'enfant qui ont indiqué où est-ce qu'elle se trouvait. On l'a retrouvée à côté du cadavre de son père dans la brousse.
Alors, Bagassi.
Oui. Alors, donc, comme vous avez pu l'entendre, c'est des témoignages assez émouvants. Même le docteur qui était sur place ce matin était assez ému. Et donc, sûrement, demain, nous reviendrons sur certains de ces cas.
Bagassi Koura, envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Bangui. La psychose de l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Après l'éruption de la fièvre hémorragique en Guinée, Morgane, tous les pays de la sous-région prennent des mesures pour protéger leur population de la pandémie.
Oui, et c'est la situation en Côte d'Ivoire où aucun cas n'a été signalé. Docteur Raymond Kofi Goudou est la ministre de la Santé. Elle parle de l'expérience ivoirienne pour faire face à l'Ebola.
Le pays frère de Guinée, comme celui du Libéria et de la Sierra Leone, essaie, bien sûr, avec l'appui de tous nos partenaires, en l'occurrence l'OMS, de juguler le mal. Et nous également, nous sommes en lien avec eux à travers donc l'Organisation mondiale de la santé, qui nous apporte les informations, qui nous appuie pour éviter que toute notre sous-région soit prise par cette fièvre d'Ebola. Nous mettons le maximum de sensibilisation, d'information que nous portons à nos compatriotes et que nous surveillons nos frontières.
Qu'est-ce que les populations doivent faire pour éviter les mesures d'hygiène concrètes?
Le problème de la fièvre Ebola, c'est que c'est un virus qui se trouve chez l'animal. Les primates, les singes, les chauves-souris aussi, les agoutis. Lorsque l'homme manipule cet animal sans précaution, qu'il l'ingère, c'est là où la contamination se fait entre l'animal et l'homme. Il faut éviter les sécrétions, il faut éviter tout ce qui est liquide biologique d'animaux infectés par le virus ou non. Il ne faut pas consommer ces animaux. Le plus important également, c'est de se prémunir aussi soi-même lorsqu'on peut se trouver en contact avec quelqu'un qui fait de la fièvre. Tous nos services, tous nos agents sont mobilisés.
En quoi consistent les postes avancés aux frontières?
Les postes avancés sont extrêmement importants parce que ce sont des médecins, hein, toute une équipe qui est placée aux postes frontières qui surveille les entrées. Lorsque nous avons un cas terrestre qui vient de Guinée et qui veut rentrer à Sipilou, qui est un des premiers postes frontières, nos médecins sont là et chaque personne qui veut rentrer est examinée. C'est-à-dire que si les médecins constatent qu'il y a une suspicion de fièvre ou quoi que ce soit, à ce moment-là, cette personne est isolée automatiquement, est auscultée. Les frontières ne sont pas fermées. Pour le moment, nous essayons d'être le plus vigilants possible afin de protéger les populations qui sont à l'intérieur du territoire à travers les passages qui viennent à travers nos transfrontalières. C'est ça qu'on appelle les postes avancés.
Voilà, docteur Kofi Goudou, ministre de la Santé de la Côte d'Ivoire, joint à Abidjan par Jean-Roger Billon.
Parlons ce soir de la violence sexuelle en République démocratique du Congo. Elle est encore très présente dans tout le pays. C'est ce qu'a dit hier la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Nevi Pillay, lors d'une session à Genève consacrée à ce fléau.
Le viol est encore utilisé comme arme de guerre par des milices congolaises, rwandaises et ougandaises dans l'Est, a-t-elle déploré. Reconnaissant les efforts du gouvernement, les experts pointent encore du doigt l'impunité et l'absence de compensation pour les victimes. Après avoir témoigné devant le Congrès américain, Julienne Lucinge, présidente de Solidarité Féminine pour la paix et le développement intégral, a fait le plaidoyer des victimes devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Nathalie Barja a contacté l'activiste congolaise juste avant son départ pour Paris.
La situation ne s'améliore pas. Il y a des petits avancées, mais bon, la guerre continue. On fait un pas devant et puis on recule de 10 pas derrière. Tant qu'il y aura des groupes armés, on ne va pas voir de changement, on ne va pas voir l'impact de tout le travail qu'on est en train de faire. Pour nous, il est capital, il est très important qu'on arrive à éradiquer tous les groupes armés et alors impliquer les femmes survivantes dans la reconstruction.
Vous parlez vous-même des victimes qui finalement ont toujours du mal à se faire entendre parce que c'est jamais facile de témoigner quand on est victime de ce genre de violence.
Oui, c'est pas facile de témoigner parce qu'il faut prouver qu'on a été violé et les preuves, il faut les conserver. Il faut avoir l'attestation médicale et cela ne suffit pas. Il faut montrer les traces. Il faut convaincre le juge que réellement on a été victime. C'est pas facile de l'exprimer et de le présenter. Il y a quand même des femmes qui arrivent à donner des preuves et avec l'accompagnement de nos avocats, là on arrive à gagner les procès. Mais l'impunité aussi est entretenue par les autres groupes qui sont dans les pays voisins signateurs de l'accord cadre qui jusqu'aujourd'hui protègent les criminels dans leur pays. Ils les traitent correctement. Et là, je parle de l'Ouganda, où nous voyons les chefs des M23 circuler librement dans les véhicules officiels du Rwanda. Bien sûr, il y a des problèmes au niveau de la juridiction congolaise. Il y a des magistrats qui n'intériorisent pas la loi réprimant les violences sexuelles. Il y a des policiers, différents acteurs qui devaient aider les femmes à bien documenter les cas, à bien rédiger les PV. Ils n'arrivent pas à le faire correctement. Ça fait qu'on dit non, il n'y a pas de preuves. Même au niveau de la Cour pénale internationale, on ne voit pas le résultat. La Cour n'a jamais puni quelqu'un des crimes de violence sexuelle.
Alors, est-ce que vous pensez justement qu'on devrait mettre en place une structure, notamment un tribunal mixte par exemple?
Oui, nous pensons qu'il est important qu'il y ait un tribunal mixte ou cour spécialisée. La CPI n'a pas la capacité de punir et d'arrêter tous ces criminels. Donc c'est mieux qu'on puisse avoir un tribunal spécialisé pour le Congo pour que tous les criminels soient jugés et arrêtés. Et aussi pour aider à la réforme de l'appareil judiciaire congolais.
L'activiste congolaise Julienne Lesengue, une des initiatrices de la campagne mondiale pour mettre fin au viol et à la violence fondée sur le genre en situation de conflit. Et toujours pour parler de la RDC, place maintenant aux 100 citoyens journalistes. Vous trouvez leurs messages, photos et vidéos sur Facebook et sur lavoixdelamérique.com.
Charlie Kassereka pour 100 citoyens journalistes de la Voix de l'Amérique à Goma. Clôture de la conférence minière de Goma qui était à sa deuxième édition avec comme thème « Bonne gouvernance et transparence dans la gestion des ressources naturelles de la RDC ». Plusieurs discours et recommandations ont été formulés par les membres des délégations, mais tout cela loin des journalistes de Goma, sauf ceux venus de Kinshasa. À part les journalistes de Goma, exclus de la salle, faute de badges d'accès, mais même les organisations de la société civile des différentes provinces de la RDC, à savoir les Katanga, les Bas-Congo, les Sud-Kivu et celles du Nord-Kivu, sans oublier celles de Maniema, ont dénoncé les dysfonctionnements dans les protocoles et les systèmes d'enregistrement des participants pour cette deuxième édition de la conférence sur les mines qui vient d'être clôturée à Goma. Après deux jours de conférence, les Nord-Kivuciens attendent la concrétisation des recommandations formulées par les participants qui ont eu la chance d'entrer dans la salle.
La Voix de l'Amérique s'associe à 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo. Grâce à des téléphones portables, ces observateurs seront les témoins de tout ce qui se passe au Congo. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur la page Facebook 100 citoyens journalistes et sur notre site www.lavoixdelamérique.com. Mais aussi leurs témoignages tous les jours dans nos émissions destinées à l'Afrique centrale.
La Cour suprême des États-Unis se penche à nouveau sur le droit à la contraception. Le point avec Camille Grosdidier.
Les 9 sages sont appelés à trancher une question bien précise. Des sociétés privées peuvent-elles invoquer des croyances religieuses profondément ancrées pour refuser à leurs employés, en violation de la nouvelle loi sur l'assurance santé, la couverture de certaines méthodes de contraception, notamment deux pilules du lendemain et deux types de stérilets. Le cas bien précis sur lequel la Cour suprême se penche concerne les propriétaires de deux entreprises. Une chaîne de magasins de bricolage, Hobby Lobby, et un fabricant de meubles. Pour eux, l'Obamacare, la réforme de l'assurance santé adoptée en 2013, viole leur liberté religieuse en les forçant à financer des méthodes de contraception qu'ils considèrent abortives.
This is an issue of life.
C'est une question de vie. Nous ne pouvons pas aider à supprimer la vie. Et donc, la situation dans laquelle le gouvernement nous place est incroyable, affirme le président de Hobby Lobby, Steve Green. La controverse porte sur 4 des 20 moyens de contraception, dorénavant remboursés entièrement. Aux États-Unis, la liberté de pratiquer sa religion est garantie par la Constitution, certes, mais les sociétés sont-elles couvertes ou seulement les individus? Quels sont les droits du patronat face à ceux des employés? Ce sera à la Cour suprême de décider. Si elle statue en faveur de Hobby Lobby, où va-t-on s'arrêter? S'interroge Caroline Fredrickson de l'Institut American Constitution Society. Par exemple, dit-elle, un chauffeur de taxi musulman conservateur pourrait-il revendiquer le droit de ne pas transporter une femme non accompagnée? Aujourd'hui, ce serait illégal, mais si un arrêt est rendu en faveur des plaignants, pourrait-on dire que ces valeurs religieuses ne seraient pas enfreintes? Se demande Madame Fredrickson. Mais au-delà de cette question, c'est toute la controverse sur la réforme de l'assurance santé, toujours rejetée par les Républicains, qui se pose de même que celle du droit à l'IVG, un droit toujours plus restreint depuis la légalisation de l'avortement en 1973. Mardi, la Cour suprême a entendu les plaidoiries. Elle devrait se prononcer d'ici au mois de juin.
Au pas de course, l'actualité sportive avec Timothée Donangma. Et bonsoir Tim.
Bonsoir chérubin.
L'UEFA envisage de lancer une nouvelle compétition pour les pays européens, c'est ça?
Et oui chérubin, le projet sera présenté demain aux 54 fédérations de l'UEFA. Et en cas de feu vert, cette compétition pourrait démarrer à partir de la saison 2018-2019. Ce tournoi se substituerait aux matchs internationaux amicaux en été lorsque d'autres compétitions internationales ne sont pas programmées. Et selon deux responsables de l'UEFA ayant requis l'anonymat, la compétition pourrait donner à certains pays l'accès direct à l'Euro 2020.
Passons tout de suite au basket. Basket professionnel nord-américain, la NBA, avec 10 matchs au programme ce soir.
Un des matchs à suivre, chérubin, Indiana, actuel leader de la conférence Est, qui reçoit le champion en titre Miami. Brooklyn est en déplacement à Chicago. Phoenix est ce soir ici à Washington pour affronter les Wizards locaux. Et les Clippers, qui ont ravi aux Lakers leur place de meilleur club de Los Angeles, défient la Nouvelle-Orléans sur son parquet. Ils ont gagné leurs trois précédentes confrontations de la saison.
Et deux ou trois résultats seulement pour hier soir.
Alors hier, Dallas a émergé victorieux après prolongation d'Oklahoma sur le score de 128 à 119. On a eu Dirk Nowitzki qui a joué un rôle clé avec 32 points. Oklahoma a sombré malgré les 43 points de Kevin Durant. Il y a eu aussi Cleveland qui a défait de justesse Toronto 102 à 100.
Merci Timothée.
Voilà, après les sports, la musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. Alors Morgane, l'artiste, chanteur, compositeur du R&B canadien d'origine rwandaise, Corneille, de son vrai nom Cornelius Nyungura. J'espère que j'ai bien prononcé ça parce que sinon Lionel va me dire quoi.
Nyungura.
On a Lionel, on va demander à Lionel. Alors il a fêté son anniversaire le lundi dernier en présence de ses amis. On l'écoute ici dans I Will Never Call You Home Again.
Last time I saw you, you were filling your rivers up with blood of your own. Last time I saw you, you were wearing fire and burning our souls to the bone. That's how I remember you. That's how I remember you. So please forgive me if I never call you home again. So please forgive me if I never call you home again. Last time I saw you, you looked like apocalypse, hell and then Genesis combined. Last time I saw you, you were stripping me of anything and anyone.
Voilà, donc c'est au Rwanda que Corneille a découvert sa passion pour la chanson. C'était au début des années 90 et il faisait alors partie d'un groupe de R&B. Et à 17 ans, il est au Rwanda lors du génocide et Corneille a assisté au massacre de sa famille avant de s'enfuir au Zaïre.
Exactement, Morgane. On se demande même si peut-être qu'il n'a pas été inspiré par tout ça pour écrire cette chanson « I will never call you home again » pour dire « je n'appellerai plus jamais à la, enfin, je n'appellerai plus jamais à la maison » ou au pays. Quand il dit home again, je vais dire, c'est un peu ça.
Bon, Gabi, expert.
Gabi, expert.
Traducteur.
I will never call you home again.
Ouais, je t'appellerai plus jamais à la maison.
Ah, à la maison pour dire le Rwanda.
Ou alors je n'appellerai plus le Rwanda ma maison.
Ah, peut-être. Pourquoi pas.
Voilà, ça c'est mieux.
Ça c'est parfait. Ça c'est parfait.
Parfait, hein, ça, tu mérites une promotion. Promotion pour Morgane.
Non, ça c'est Morgane. Merci Morgane.
Voilà, alors chers amis, c'est la fin de cette édition. Michel Joseph a dirigé la mise en onde. Wayne Shorter était à la console technique. Laissez-nous vos messages sur fr@voanews.com. Ici chez Robin Dorsil et
Morgane Guiriec.
On se retrouve dans une demi-heure. I really hope you've learned to take care of your own. 'Cause that's how I wanna remember you.